Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique. Une chronique ce midi qui colle parfaitement à notre sujet du jour, à savoir le beurre. Le beurre est gras. Et comme tous les gras, il est un plaisir coupable, à la fois produit nécessaire à un bon équilibre alimentaire et ennemi juré des médecins quand il est consommé en excès. Deux livres qui viennent de paraître reflètent cette dichotomie entre histoire politico-économique et cuisine gourmande. Leurs auteurs sont nos invités autour de cette question. Le beurre est-il emblématique de la guerre du gras? Nicolas Kaiser-Brill avec nous depuis Berlin. Bonjour à vous.
Bonjour.
La guerre du gras, c'est votre livre paru chez Nourriture Fu. Marion Châtelain est avec nous en studio. Bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Le gras, c'est la vie, point d'exclamation. C'est le titre de votre livre paru chez Flammarion. Alors on va en venir au beurre, mais d'abord, je voudrais vous poser quelques questions préalables. Nicolas Kaiser-Brill, pourquoi dans l'imaginaire français, le gras est-il si ambivalent ?
Le gras, ça a une très longue histoire qui est surtout marquée par la pénurie. Et donc si le gras est ambivalent, c'est parce que pendant des millénaires, il a eu une place extrêmement importante dans la vie quotidienne de l'ensemble de la population. Et finalement, cette relation d'amour-haine s'est développée qu'à partir des années 1950 environ. Et à mon avis, cette relation ambivalente vient remplacer cette espèce d'obsession pour le gras qui existait dans les millénaires précédents.
Marion Châtelain.
Vous parliez du beurre. Pour moi, c'est un pilier au royaume du gras. Et le livre était là pour une déclaration d'amour, clairement. Donc, pas d'amour-haine, déclaration d'amour à ces gras qui, outre les apports nutritionnels et le plaisir gustatif, font lien. Sont synonymes de partage.
Ouais, mais on oublie, justement, c'est aussi l'objet de votre livre, on oublie trop le rapport au goût, au terroir, à la fête. Alors peut-être depuis 70 ans, je ne sais pas, puisque nous disait Nicolas Kaiser-Brill que c'était à partir des années 50 que les choses pouvaient changer, mais vous faites une déclaration d'amour à ce qu'on pourrait appeler un gras traditionnel, justement, le beurre, le saindoux, etc. C'est une autre dimension de ce qu'on appelle aujourd'hui les graisses transformées, voire ultra transformées.
Ce que je valorise en tout cas, c'est ceux qui me plaisent et que j'aime manger, et ceux qui sont portés par des artisans qui font ça bien. Donc les gras de terroir, on parle de plats d'auteur, mais il y a aussi des gras d'auteur. Et puis le gras est assez fascinant quand on s'y penche un peu. Il suit les saisons comme n'importe quel produit. Il suit les saisons, son goût change selon les producteurs, la typicité de vache, si on parle du beurre en particulier. Mais voilà, c'est fascinant.
Nicolas Kaiser-Brill, est-ce que le problème, vous parliez de ce gras ambivalent dans l'histoire et dans l'imaginaire français, est-ce que le problème pour vous, il vient du gras en soi ou il vient du mode de production industrielle? Et j'en veux pour preuve la dernière enquête signée Guillaume Coudray sur les huiles végétales industrielles. Est-ce que le gras ne serait pas un bouc émissaire?
Tout à fait. Le gras, il y a énormément de raisons de s'en méfier. Et effectivement, la présence d'huiles minérales comme l'hexane est un gros problème. Il y a aussi tous les problèmes liés à la production d'huiles végétales. On connaît évidemment la déforestation pour faire pousser des palmiers à huile. Pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée.
Est-ce que le gras est un bouc émissaire, puisque en fait le problème n'est pas forcément lié au gras en soi, mais plutôt à son mode de production?
Tout à fait. Le gras est un bouc émissaire pour des raisons historiques et aussi parce que parmi les différents ingrédients qui pose problème au niveau sanitaire, et je pense en particulier au sucre, les producteurs de gras n'ont pas forcément réussi à s'organiser pour transformer le gras en un aliment perçu comme bon pour la santé.
Et seulement bon pour la santé. Alors on a voulu demander l'avis d'un nutritionniste. Léa Varin a contacté Anthony Bertou, auteur de « Remettez du bon sens dans votre assiette » paru chez Actes Sud. Elle lui a demandé notamment, justement, s'il existait vraiment des bons gras et des mauvais gras.
non, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a tendance à caricaturer souvent les choses à ce niveau-là. Il y a plutôt des excès ou des déficits très souvent. C'est-à-dire que si on parle par exemple des acides gras saturés, qu'on appelle communément les graisses saturées, selon le type de graisse saturée, selon les quantités, on pourra avoir des effets qui sont différents. Donc en soi, il n'y a pas de mauvais gras, mais c'est plus le fait que ces graisses occupent une partie importante de l'alimentation qui peut à un moment donné poser problème. Et à l'inverse, on a des graisses qu'on peut effectivement citer comme étant des bonnes graisses parce qu'elles vont contenir des composés que le corps ne sait pas fabriquer, ce qu'on appelle des acides gras essentiels, notamment les oméga-3 qui sont très connus en ce sens. On peut aussi parler d'oméga-6. Donc là, ce sont effectivement des composés particulièrement bénéfiques, mais qui en excès peuvent aussi potentiellement poser problème.
Est-ce que vous auriez quelques conseils très concrets pour nos auditeurs ?
Alors oui, au sens où on sait que la très grande majorité de la population française aujourd'hui manque des oméga-3, mais plus précisément de ce qu'on appelle les oméga-3 longue chaîne, que sont le EPA et le DHA. Donc le fait de consommer, par exemple, une à deux fois par semaine des petits poissons comme des sardines, des maquereaux, des anchois, de consommer des œufs qui vont être issus d'une filière où on aura enrichi en graines de lin, l'alimentation de la poule permet d'avoir plus d'oméga-3 de qualité, donc de EPA et de DHA dans le jaune d'œuf, de consommer des noix qui sont très intéressantes dans leur profil justement en acides gras, notamment en oméga-3, d'apporter des aliments riches en oméga-9, le fait de consommer également des noisettes apporte ces fameux oméga-9, l'huile d'olive est bien sûr très importante, notamment sur ce critère et très bien reconnue, notamment à travers un modèle alimentaire sur la protection cardiovasculaire, donc de consommer une à deux cuillères à soupe d'huile d'olive par jour. Donc ça, c'est vraiment ce qui va être positif. Et puis à côté, on va éviter des graisses qui sont notamment les acides gras trans. Donc on va trouver dans les margarines de mauvaise qualité, les produits, les aliments ultra transformés qui contiennent ces graisses, comme par exemple des friands, des quiches, des pâtes sablées, des pâtes feuilletées par exemple, des viennoiseries industrielles, les biscuits apéritifs contiennent aussi souvent ces types de graisses. Déjà là, c'est, je pense, quelques conseils qui sont les plus importants.
Marion Châtelain, ce que nous dit Anthony Berthoud, nutritionniste, en quelque sorte, c'est que le gras, c'est pas toujours la vie. Vous êtes un peu à contre-courant avec un titre assez provocateur.
Alors c'est pour ça que je voulais éclairer dans le livre particulièrement les gras de terroir, parce qu'on se rend compte que pour les produire bien, il faut du temps. Et donc du coup, le mode de production que vous évoquiez, c'est ça. Et ces gras-là, ils sont moins transformés, voire pas, les crus, les crèmes crues entières, etc. Outre les apports nutritionnels donc et le plaisir gustatif, ils sont vraiment rassasiants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en mettre. Alors libre à chacun de rajouter une deuxième cuillère de crème fraîche, ou de caramel beurre salé. Mais en tout cas, ils sont nourrissants contrairement aux calories vides de la junk food qui sont tellement transformées et ils sont nourrissants aussi pour l'âme. Pour le cœur. Donc quand on les mange, on est...
Pas tout à fait pareil, hein, l'âme et le cœur, mais nourrissant pour le cœur, ou pour le... ça fait du bien, ça fait du chaud au cœur, voilà.
Ça fait chaud au cœur.
Ça réconforte, voilà. C'est un baume.
Exactement, merci.
C'est un baume. Alors voilà, c'est petite question préalable autour du gras en général, et des controverses autour du gras, aussi bien dans l'histoire qu'actuellement, pour venir maintenant à la question du beurre. Parce que le beurre, d'une certaine façon, Nicolas Kaiser-Brill, il est emblématique de cette guerre du gras dont vous avez fait un ouvrage, parce que c'est l'exemple d'un mauvais gras devenu bon dans l'histoire. Racontez-nous, il n'a pas toujours été en odeur de sainteté, et il l'est devenu.
Tout à fait, l'histoire du beurre est emblématique. C'était, dans l'Antiquité, une graisse totalement méprisée par les Grecs et les Romains, pour une raison simple, c'est que c'était le gras des barbares. Eux, les Grecs et les Romains, ils utilisaient l'huile d'olive. Le beurre, c'était réservé à des pratiques médicales, par exemple, pour le mal de dents. Et dans les siècles qui ont suivi, même au Moyen-Âge, avec l'arrivée des fameux barbares en Occident, en France, le beurre n'est pas pour autant devenu la graisse de choix. On préfère alors le lard.
Le saindoux. Le saindoux, c'était la graisse la plus utilisée.
À partir du XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe siècle, là, le beurre, d'un coup, devient la graisse des aristocrates et va devenir la graisse de base de la cuisine française. Donc, on a bien eu une transformation en passant de graisse honey à la graisse par excellence.
Comment expliquer cet engouement moderne, ce renversement ou cette revanche du beurre ?
Alors, il y a des explications très concrètes. C'est que jusqu'au XVIIIe siècle, à peu près, c'est assez difficile de faire la cuisine dans une poêle. On utilise des marmites et, comme vous le savez, le beurre a un point de fumée assez bas. Donc, si vous faites de la cuisine au beurre sur un grand feu, vous allez tout faire brûler. Donc, l'arrivée de ces nouveaux matériels de cuisine, qu'on appelle des potagers, permet certainement aux cuisiniers de faire de la friture au beurre. Mais le principal problème, enfin la principale nouveauté, et surtout culturelle, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, les Européens cherchent à imiter la cuisine de Perse et d'Inde, qui sont considérées comme les grandes civilisations qu'il faut absolument imiter. À partir du XVIIIe siècle, les Européens commencent à se considérer comme étant la civilisation supérieure, et donc il leur faut la cuisine qui va avec, qui utilise des aromates européens. Et donc, les épices sont non pas exclues, mais en tout cas reléguées au second plan. Et donc, pour accompagner cette cuisine sans épices, cette cuisine un petit peu plus fade, eh bien, le beurre est le gras parfait.
Il y a des raisons techniques, comme vous venez de les évoquer, et puis il y a des raisons religieuses, parce que vous dites même dans votre ouvrage, Nicolas Kaiser-Brill, que le beurre devient une revendication des protestants contre le choix alimentaire des catholiques.
Alors, en effet, il y a des raisons religieuses. D'une part, le beurre était interdit les jours maigres parce que c'est une matière animale et dans la liturgie catholique, les jours où il faut jeûner, les produits animaux étaient interdits. Et ça a posé beaucoup de problèmes, notamment dans les régions où on n'avait pas accès à l'huile, où là, il fallait bien trouver un corps gras pour les jours maigres. Et donc, petit à petit, les personnes se sont mises à utiliser du beurre et ont obtenu des dispenses. Mais c'est vrai qu'on retrouve chez Martin Luther, au moment de la réforme, on retrouve des revendications qui portent sur les corps gras. Et Martin Luther dit notamment, il y en a marre des papistes qui veulent nous vendre de l'huile d'olive qu'ils n'utiliseraient même pas pour cirer leurs chaussures.
Des raisons techniques, des raisons religieuses, et bien évidemment, vous n'oubliez pas l'histoire du goût. Alors là, je me tourne vers Marion Châtelain. Le beurre est devenu si finalement hégémonique dans l'histoire parce que aussi le goût est très important. Quel goût a le beurre pour vous ?
Justement, l'image qui me revenait, c'était la fermière qui habitait à côté de chez mes grands-parents et qui ferme de terre battue et qui préparait son beurre elle-même, qui donc baratait maison. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait la recette du beurre maison dans mon livre. Et ça me fait revenir sur... Alors le beurre, c'est vraiment un pilier au royaume du gras, du goût. Il représente bien cette fascination, cette matière grasse entre rusticité et noblesse brute. Et puis, il met le point sur un pouvoir magique quand même du gras, qui est de capter les parfums, pour le meilleur et pour le pire. Hein, faut bien emballer ses gras dans le frigo. Mais voilà, ça, c'est un pouvoir magique en cuisine qui est assez... extraordinaire.
J'avais une question pour vous, Nicolas Kaiser-Brill, avant de passer à la deuxième partie de cette émission, puisque vous vivez à Berlin depuis quelques années, il me semble. Est-ce que à Berlin, en Allemagne, on a ces mêmes débats que nous avons ici en France sur le gras, le bon gras, le mauvais gras, sur le beurre, est-ce qu'on mange du beurre ou pas, Nicolas Kaiser-Brill?
Il faut dire que la culture culinaire en Allemagne n'a rien à voir avec celle en France. Et pour parler du beurre, il faut quand même savoir qu'en Allemagne de l'Ouest, dans les années 50 et 60, on mangeait surtout de la margarine. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les pratiques s'homogénéisent un petit peu, mais on reste très loin d'avoir des débats sur le beurre en Allemagne.
La cuisine au beurre, ça c'est bien une cuisine française.
Tout le menu est au beurre. Broché beurre blanc, raie au beurre noir, escalope beurre noisette.
Dites, mais l'huile ici, vous la mettez dans les moteurs d'automobile, non?
Non, on en met un peu dans la salade, quoi.
Ah oui, bah, c'est toujours ça. Mais dites-moi, cette cuisine exotique, là, hein, les gens d'ici, ils la digèrent?
Goûte.
Hein? Ah oui.
Ah. On va voir ça.
Ah. Alors?
Qu'est-ce que t'en penses?
Ça surprend.
Extrait donc de La cuisine au beurre, parce que c'est aussi un film de Gilles Grangier avec, vous les aurez reconnus, Bourville et Fernandel. Nicolas Kaiser-Brill, on disait que le beurre avait pris sa revanche aux alentours du XVIIIe siècle pour devenir hégémonique. Aujourd'hui, vous dites même que le beurre est partout. Même au Tolenghi, on met dans son guacamole.
Tout à fait. On trouve du beurre partout. On trouve des appellations d'origine protégée pour le beurre. C'est quasiment la seule matière grasse en Europe qui a une appellation d'origine contrôlée avec l'huile d'olive. Et on peut trouver du beurre déchiré, par exemple, au Japon, pour la modique somme de quelques centaines d'euros au kilo. Donc effectivement, il y a un gros retour du beurre partout dans le monde.
La maison du beurre fait un carton, oui, au Japon, vous écrivez. Alors, on a voulu savoir, comme on avait envie de savoir s'il y avait du bon gras et du mauvais gras avec un nutritionniste, on a voulu savoir ce qu'était un vrai bon beurre. Et pour cela, nous avons en ligne un agriculteur à Passé, en Bretagne, qui fabrique le beurre de madame que les tables étoilées s'arrachent. Thierry Lemarchand, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi déjà votre beurre s'appelle le beurre de madame?
Ah, c'est lié à la race qu'on utilise pour faire ce beurre, c'est la froment du lion. C'est une vache qui a été sélectionnée par les femmes de marins par le passé, les siècles derniers, et les hommes partaient à la pêche sur les bancs Terre-Neuve et les femmes restaient sur les fermes pour s'en occuper. Et intuitivement et de manière empirique, elles ont sélectionné une vache sur sa douceur d'être. Donc c'est pour ça qu'elle a eu ce surnom de la vache de madame.
Et oui, elle tenait compagnie aux femmes quand les maris étaient en mer. Et alors, il se trouve que ce beurre de madame que vous faites, Thierry Lemarchand, avec vos vaches froment du Léon, ce beurre est d'un jaune éclatant. Comment se fait-il?
Ben là également, c'est lié à la race, la froment du lion, qui a un gène particulier qui lui permet de fixer le carotène de l'herbe qu'elle mange. Et puis, elle a, de toutes les races connues, c'est celle qui a les plus gros globules gras. Et donc, ça lui confère par ailleurs une texture différente. Et puis, le jaune vient du bêta-carotène, bien sûr.
Mais donc, la froment du lion fait tout. Que fait la main de l'homme, à savoir vous?
Tirer le meilleur parti de son lait pour en faire de la crème, puis ensuite en faire du beurre. Mais c'est une vache aussi qui a failli disparaître, tout simplement parce qu'elle produit très très peu. Elle produit 3-4 fois moins que les autres races de vaches et laitières. Et donc, c'était un pari économique qui n'était pas gagné d'avance, quoi.
La préciosité vient aussi de sa rareté. Vous faites un beurre de baratte. Alors, il faut savoir que la baratte, c'est tout simplement le nom de la machine. C'est presque un abus de langage de dire beurre de baratte, parce que tous les beurres sont faits avec de la baratte, non?
Il y a différents types de baratte. Autrefois, elles étaient faites en bois. Aujourd'hui, pour des raisons d'hygiène, c'est fait en inox. Mais voilà, le principe reste le même. C'est un batteur qui bat le beurre à grande vitesse pour... C'est une réaction physique qui quand la crème est battue, le beurre est d'un côté et le bas-beurre de l'autre, la partie liquide.
Thierry Lemarchand, c'est un beurre, le vôtre, qu'on trouve notamment à Cancale, hein, sur les tables de la famille Rollinger. Mais il est commercialisé en dehors des tables étoilées?
Ah ben oui, mes clients, ça va de la crêperie aux 3 étoiles, mais... On a un magasin de producteurs à Passé, le Carbasson, où on vend notre beurre pour qui en veut, à la coupe. Il est vendu à la coupe.
En petite quantité, hein. Voilà. On rappelle que c'est en petite quantité. Merci beaucoup Thierry Lemarchand, fabricant du beurre de Madame, donc en Bretagne. Et je précise que le magazine 60 millions de consommateurs a de son côté élu le beurre de Barat légal comme meilleur beurre de supermarché à moins de 4 euros. Voilà, c'est tout récent, donc ça mérite d'être dit. Et pourtant, d'ailleurs, c'est ce qui me permet une question à vous, Nicolas Kaiser-Bril. Est-ce que le beurre aujourd'hui, hégémonique, n'est pas quand même un produit cher? Le prix du beurre a doublé en 10 ans.
Oui, tout à fait. Le beurre tend à devenir un produit de luxe. Toutes les graisses ont vu leur prix augmenter ces 15 dernières années, mais c'est particulièrement vrai pour le beurre. Et ça pose effectivement des questions de société, de savoir qui va avoir le droit dans les années qui viennent de cuisiner au beurre.
On est loin du temps où, pour la petite histoire, Louis XIV aurait eu une indigestion en se gavant de petits pois au beurre. C'est vous qui racontez ça. Hein.
Les aristocrates se gavaient effectivement de légumes au beurre, mais à l'époque, les paysans pouvaient encore manger leur beurre autoproduit eux-mêmes.
Parce que s'il y a bien une différence dans l'histoire, c'est aussi entre l'époque ancienne, classique, et l'époque moderne, voire contemporaine, Nicolas Kaiser-Bril, c'est que il y a longtemps eu pénurie de lipides, jusqu'au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est la période de l'abondance.
Alors, c'est vrai que l'histoire des lipides, c'est l'histoire de la pénurie. L'abondance de lipides, elle date effectivement du début du XXe siècle pour une raison qui a tout à voir avec le colonialisme, c'est l'exploitation de personnes dans les colonies et de leur environnement qui a permis l'abondance que l'on connaît depuis les années 1920. Après, je pense qu'il faut quand même se préparer à la fin de l'abondance. On l'a très bien vu en 2022 quand le prix de l'huile d'olive a été multiplié par 5. Où les supermarchés mettaient les bouteilles d'huile d'olive sous vitrine. Et ça risque de se reproduire dans les années qui viennent.
Pour parer à la fin de l'abondance et peut-être même parfois aller contre l'augmentation des prix, Marion Châtelain, vous avez une solution. On fait notre beurre à la maison.
Oui, avec...
Il y a la recette dans votre livre, Le gras, c'est la vie.
Exactement, mais comme n'importe quelle autre matière grasse, on choisit une crème de bonne qualité qui veut dire... De préférence crue, fermière, entière évidemment, puisque sans gras, pas de...
Tout le monde n'a pas des froments du Léon dans sa prairie. Hein.
Non, mais c'est bien, il y avait cette notion de terroir dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, une bonne crème. Et puis après, comme il l'expliquait, on la fouette assez vivement. Il y a un moment, elle va se transformer un peu comme une matière, un peu d'œuf brouillé. Et là, un grand bol d'eau froide, les trois, l'index, le majeur, l'annulaire, un peu comme une grosse fourchette. Et on tourne avec ses mains. Et puis après, il faut taper le beurre. Enfin voilà, il y a très peu d'étapes, mais il faut les respecter pour séparer le bas beurre de la matière beurre en elle-même. Et puis après, on met ses mains bien au frais pour pas que le beurre, on le moule. Et on l'emballe surtout très soigneusement pour pas qu'il capte les odeurs. Parce que ce que je vous disais, c'était son super pouvoir de capter les odeurs. Donc on l'emballe précieusement avant de l'utiliser. Mais on peut même le congeler.
Thierry Lemarchand nous disait que les beurres se faisaient mécaniquement. Hein, on le fait pas à la main avec cette fameuse baratte.
Oui, bien sûr.
Vous le faites avec vos deux doigts comme une fourchette
et
un fouet.
Oui. Et le résultat est très satisfaisant.
C'est-à-dire, c'est quoi un bon beurre alors?
Alors, tout dépend de la crème. Donc, les crèmes, en fonction de quand je les achète, la saison, etc., les beurres n'ont pas le même goût. Et puis après, à partir de beurre, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Moi, je me fais beaucoup de beurre composé. Je les parfume. J'ai aussi l'habitude de les mettre dans des bacs à glaçons. J'emballe soigneusement. Comme ça, je peux les utiliser au compte-gouttes. En avoir un peu toujours sous la main, et des salés, des sucrés. Il y a aussi des recettes dans mon livre sur des beurres composés parfumés.
Agrumes, baies roses, pralinés avec éclat, épicé, paprika, piment et ail, parmesan, ail, herbes et cébettes. Ça devient un peu compliqué. Hein.
Pas tant que ça. Il y a celui qu'on a envie de faire parce que avec les goûts qu'on aime. Si vous êtes plutôt sucré, c'est vrai que celui au praliné avec les petits éclats est pas mal à tartiner sur une brioche un peu tiède, juste passer au grille-pain, comme ça il va se mettre à fondre légèrement, alors que celui aux agrumes et baies roses ira très bien pour faire un massage appuyé à votre volaille du dimanche, afin qu'elle soit en très bonne condition pour être cuite au four.
Et d'ailleurs, c'est la recette au beurre du poulet, le poulet beurre zesté, que vous nous avez offert pour la page Les Bonnes Choses de ce jour. Thierry Lemarchand, vous êtes encore avec nous ?
Oui.
Thierry Lemarchand, vous, votre beurre de baratte, de beurre de madame, il se mange presque à la cuillère. Ce serait quoi le mieux ? Vous le mettez sur une tartine de pain ?
Bon, c'est le plus simple et c'est là que ça, on a le meilleur ressenti, le meilleur goût, c'est d'avoir vraiment le goût du beurre, quoi.
Et vous, Nicolas Kaiser-Bril, parfois vous remplacez le beurre par de l'huile de palme, mais pas n'importe quelle huile de palme, parce que celle-là aussi, elle est très contestée, mais ça dépend évidemment de laquelle, dans les fonds de tarte en particulier.
Tout à fait. Le beurre, c'est délicieux, mais je pense qu'il ne faut pas non plus ignorer complètement les graisses végétales, en particulier l'huile de palme rouge, qui est excellente à la santé et pas forcément nuisible à l'environnement si elle est produite correctement.
Eh bien, restez avec nous, parce que le chef étoilé Maurice Sacco, lui aussi, bien sûr, fait du beurre. Le dialogue des cuisines, Maurice Sacco. Évidemment, vous ne pouviez pas ne pas nous parler de votre beurre.
Emblème de la gastronomie française, cet ingrédient est vu de l'étranger comme indissociable de notre alimentation. Et à juste titre, car les Français sont les plus grands consommateurs de beurre au monde. Et chaque Français consomme en moyenne 8 kilos de beurre par an. Et je prends ma part, car je trouve rien de plus beau que le geste d'arroser au beurre moussant une pièce de viande, une coquille Saint-Jacques ou une betterave. On trouve les premières traces de fabrication du beurre à plus de 5000 ans avant notre ère, à peu près en même temps que le début de la domestication des premiers bovins. J'ai essayé de retracer le chemin, mais il nous faudrait plus de 3 minutes.
Mais comment on fait du beurre ?
Alors, le beurre s'obtient à partir de la crème, en séparant la matière grasse de l'eau, appelée petit lait, via une action mécanique. Avec une baratte, on vient mélanger la crème de manière à ce que le gras de celle-ci forme des petites boulettes qui s'agglomèrent jusqu'à nous donner une motte de beurre.
Et après, on fait quoi avec cette motte de beurre ?
Eh bien, tout ce qu'on souhaite. Car le beurre a une particularité, c'est d'être un fixateur de goût et un exhausteur de goût. Il facilite la dilution des molécules liposolubles et en amplifie le goût. Que ce soit en salé ou en sucré, le beurre donne toujours une multitude de possibilités. J'avais envie de partager avec vous une petite astuce, celle du beurre aromatisé. C'est très simple et vous pourrez en faire usage du petit déjeuner au dîner, avec des possibilités quasi infinies. Pour ce faire, il faudra compter entre 3 et 5% de fleur de sel dans votre beurre, puis le travailler de manière à le rendre pommade. Puis y ajouter des épices et des aromates selon votre choix. J'adore personnellement y ajouter de la baie rose, car avec son goût légèrement sucré, elle fonctionne aussi bien au petit déjeuner qu'en beurre de table. Vous pouvez aussi le faire avec du curry ou d'autres épices, mais la manière dont je préfère l'utiliser reste pour la cuisson. Conservez le même grammage en sel, puis dans un mixeur, ajoutez de la vanille et mixez, puis refroidir. Au moment de cuire vos Saint-Jacques, ajoutez le beurre à la vanille et arrosez généreusement. C'est assez génial. Ou bien mixer votre beurre avec des anchois, puis le faire refroidir en formant un boudin. Puis ensuite, cuire une pièce de bœuf, disposer une rondelle de beurre froid sur votre pièce de bœuf chaude et laisser fondre à la manière d'un beurre maître d'hôtel. Vous m'en direz des nouvelles. Le beurre aromatisé, c'est ni plus ni moins qu'une manière simple d'égayer votre quotidien. À vous de jouer maintenant. Bon dimanche.
À nous de jouer. Merci Maurice Sacco, merci Thierry Lemarchand, Marion Châtelain, Nicolas Kaiser-Bril. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin et Jean-Christophe Francis à la réalisation. À la technique, c'était Ludovic Auger. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.